Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un défi assez courant en finance. Comment on fait pour prendre les meilleures décisions possibles?
Ah oui, un vrai sujet. Que ce soit pour un portefeuille ou planifier un comité, choisir des dossiers d'investissement.
C'est ça. On jongle toujours avec plein d'objectifs, de contraintes. Parfois, ça se contredit même un peu.
Exactement. Et là, l'intuition, même la meilleure, elle a ses limites, hein, face à toute cette complexité. C'est là qu'intervient l'optimisation combinatoire. C'est une approche
Mathématiques.
mathématique, d'accord?
Oui, avec des outils spécifiques, on les appelle les solveurs, et ça aide vraiment à passer de choix un peu au feeling, disons,
Oui.
à des décisions vraiment optimisées, et puis surtout traçables et rapides. Optimisées, traçables, rapides, intéressant, et on va explorer ça en s'appuyant sur une fiche pratique, c'est ça? La fiche IA Data numéro 9?
Tout à fait. L'objectif, c'est de comprendre un peu les bases de cette méthode, de voir comment ça marche avec un exemple concret.
Et voir ce que ça peut apporter pour le pilotage de fonds, par exemple. J'ai lu que des grandes boîtes comme EDF, la SNCF, l'utilisent déjà pas mal pour leur planification.
Oui, absolument. En fait, le principe est assez simple. Il repose sur trois piliers.
D'abord, il faut définir très clairement ce qu'on appelle la fonction objectif.
La fonction objectif, c'est-à-dire
Ben, c'est ce qu'on cherche à faire au mieux, maximiser quelque chose.
le rendement, classiquement, ou un score plus complexe.
D'accord.
Ou au contraire, on peut vouloir minimiser un risque, par exemple.
Logique. Donc l'objectif d'abord, et ensuite.
Ensuite, les contraintes. Ça, c'est toutes les règles du jeu qu'on ne peut pas ignorer.
Ah oui, les limites, le budget maximum, des règles de diversification par secteur ou zone géographique, les échéances aussi, j'imagine.
Exactement, toutes ces limites à respecter, quoi. Et le troisième pilier, ce sont les variables de décision.
Les variables de décision.
Ce sont les choix concrets qu'on doit faire. Souvent, c'est simple, c'est binaire. On choisit cette entreprise, ça vaut 1, ou on ne la choisit pas, ça vaut 0.
D'accord, 0 ou 1, et c'est sur ça que l'outil va travailler.
Précisément, c'est là que les solveurs entrent en jeu.
Les fameux solveurs, c'est un peu comme des GPS ultra performants pour nous guider dans ces décisions complexes.
C'est une très bonne image, oui. Il y a différents types de solveurs. Certains comme le solveur d'Excel, Gurobi, Cplex, ou même un français, Exali.
Ah oui!
Eux, ils cherchent la solution exactement optimale, le meilleur chemin possible mathématiquement parlant.
D'accord.
Et puis il y a d'autres approches, qu'on appelle des heuristiques, recherche tabou, algorithmes génétiques, des noms un peu barbares peut-être.
Un peu, ouais.
Mais leur but, c'est de trouver très très vite une excellente solution. Surtout quand le problème est immense, sans garantir à 100% que c'est la meilleure, mais une solution très proche.
Ah ok, je vois. Bon, rendons ça plus concret. L'exemple de la fiche, c'était l'optimisation de portefeuille, c'est ça? Choisir 6 entreprises parmi 30.
Exactement, sur un horizon de 2 ans. Et là, l'objectif, ce n'était pas juste le rendement.
Ah non.
Non, c'était de maximiser un score composite, un mélange de potentiel de croissance, d'impact et de potentiel digital.
D'accord, c'est plus subtil. Et les contraintes?
Elles étaient claires. Un budget total de 200 millions d'euros maximum. Au moins 3 entreprises dans le secteur de la santé. Et pas plus de 2 basées au Royaume-Uni.
Ça fait pas mal de règles à intégrer. Comment on modélise ça concrètement? Même dans Excel, ça paraît compliqué.
En fait, conceptuellement, c'est assez direct. On définit nos 30 entreprises comme 30 variables qui peuvent valoir 0 ou 1.
D'accord, le choix binaire.
Voilà. Puis on traduit les règles budget, secteur, zone en équations mathématiques simples. Par exemple, la somme des budgets des entreprises choisies doit être inférieure à 200 millions.
Logique.
Et ensuite, on demande au solveur, trouve la combinaison de 0 et de 1 qui donne le score total le plus élevé, tout en respectant toutes ces équations.
Et le résultat arrive vite.
La fiche dit, 1 seconde.
Une seconde. Ah oui, quand même.
C'est ça qui est fort. Au-delà de la vitesse, c'est que la solution proposée n'est pas toujours celle qu'on aurait choisie intuitivement.
Ah bon? Pourquoi?
Bah, parfois, une entreprise qui semblait super sur le papier est écartée. Peut-être parce qu'elle consomme trop de budget par rapport à une contrainte de secteur, par exemple. C'est un genre de biais que notre intuition aurait pu louper.
Je vois. C'est puissant. Et j'imagine que ça ne sert pas qu'au portefeuille.
Ah non, loin de là. La fiche mentionne rapidement d'autres applications très utiles en société de gestion.
Comme quoi, par exemple?
Ben, l'allocation de budget entre différentes stratégies d'investissement pour optimiser la diversification globale. Ou alors la planification des équipes, affecter les bonnes personnes au bon projet en évitant les conflits d'agenda, en minimisant les déplacements. Ça, manuellement, c'est un vrai casse-tête.
J'imagine bien.
L'outil peut vraiment aider. On peut aussi penser à l'organisation de roadshow pour maximiser l'impact, ou même à la présélection des dossiers dans le deal flow pour prioriser de manière plus objective.
D'accord. Donc, si on résume les avantages, il n'y a pas que la vitesse ou l'optimisation pure et dure.
Non, il y a plusieurs choses. D'abord, ça rend les décisions plus rationnelles, moins sujettes aux biais cognitifs. On a tous nos préférences, nos habitudes.
Oui, le biais de confirmation, par exemple.
Exactement. Ensuite, la traçabilité. Pouvoir expliquer pourquoi telle ou telle décision a été prise, avec des chiffres, des faits. C'est précieux, notamment face à un comité d'investissement.
Ça, c'est clair.
Et enfin, ça permet d'explorer facilement des scénarios. Et si on changeait cette règle? Si le budget était différent? Hop, on relance le calcul et on voit l'impact.
Et ça s'intègre bien avec les outils qu'on utilise déjà. Excel, Python.
Oui, souvent ça s'intègre très bien.
Bon, c'est très clair. En gros, c'est une méthode pour structurer la complexité, pour prendre des décisions qui sont vraiment basées sur les données, les objectifs qu'on s'est fixés, et pas seulement sur le flair.
C'est exactement ça. On pourrait parler de prise de décision augmentée, en quelque sorte.
J'aime bien l'idée. Et si on voulait se lancer, commencer à tester ça, la fiche donne des conseils?
Oui, des conseils très pratiques. D'abord, choisir un problème concret, un peu douloureux si possible. Là où on sent qu'on pourrait faire mieux.
D'accord, commencer par un vrai besoin.
Voilà. Ensuite, formuler un objectif clair, quitte à commencer simple. Ne pas vouloir tout résoudre d'un coup. Utiliser des outils accessibles au début, comme le solver Excel, c'est parfait pour tester.
Et impliquer les équipes métiers, j'imagine, hein ? Pour être sûr que les contraintes sont les bonnes.
Ah, ça c'est crucial. Valider les règles du jeu avec ceux qui connaissent le terrain. Et bien sûr, documenter le modèle pour pouvoir le réutiliser et le faire évoluer.
Et après Excel, si on veut aller plus loin ?
On peut passer à des outils plus puissants, oui. Comme Exali, dont je parlais, ou des solutions open source comme GLPK, souvent en les pilotant avec Python.
Très bien. Bon, pour conclure, une petite question pour ouvrir la réflexion. Si on sortait du monde de la finance, si on appliquait cette logique, objectifs clairs, contraintes bien posées, exploration des options, à d'autres domaines pro, ou même perso.
Intéressant.
Est-ce qu'on ne découvrirait pas des solutions, des chemins étonnamment plus efficaces auxquels on n'aurait jamais pensé spontanément?
C'est une excellente question. Ça laisse matière à réfléchir. En effet, où est-ce que cette approche pourrait nous surprendre?